Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Un ministre du Burkina Faso, Zéphirin Diabré, a rencontré jeudi à Abidjan l'ex-président Blaise Compaoré, une première depuis la chute de ce dernier en 2014. Michel Joseph nous donnera les détails. Au Togo, l'opposition et la société civile ont exigé jeudi la libération d'un opposant et ancien ministre de la Communication, Dimon Oré, arrêté la semaine dernière. Notre correspondant à Lomé, Kayilosson, nous dira ce qu'on lui reproche. La date du retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo ne sera connue que quand tout sera prêt pour l'accueillir, notamment en termes de sécurité, a annoncé hier le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, en recevant des partisans de M. Gbagbo, dont sa sœur cadette Jeannette Koudou, récemment rentrée d'exil du Ghana. En République démocratique du Congo, Zoé Kabila, gouverneur de la province du Tanganyika et frère cadet de l'ex-président Joseph Kabila, a été destitué jeudi en son absence par 13 députés provinciaux, membres de l'Union sacrée de la nation. Un nouveau revers infligé au prédécesseur de Félix Tshisekedi qui a mis fin à son alliance avec le camp de M. Kabila après près de 2 ans de co-gestion du pays. Le nouveau gouvernement nommé au Tchad après la mort du président Idriss Déby Itno a affirmé jeudi que les rebelles sont en débandade mais doivent faire face à la défiance de l'opposition politique qui a appelé à de nouvelles manifestations samedi. Les ambassades de France, d'Allemagne, d'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis à Tripoli ont appelé jeudi la Libye à respecter la date des élections législatives et présidentielles du 24 décembre, censé permettre au pays de sortir d'une décennie de conflits. Par ailleurs, Amnesty International a exhorté jeudi le nouveau gouvernement libyen à donner la priorité aux droits humains et à lutter contre l'impunité des milices. Le Bureau régional pour l'Afrique de l'OMS a mis en garde jeudi contre le risque d'une nouvelle vague de coronavirus sur le continent à cause de retards croissants dans la vaccination par rapport au reste du monde, du fait du report des livraisons des doses de vaccins contre le COVID-19 fabriquées par le Serum Institute of India à l'attention de l'Afrique, ainsi que la lenteur du déploiement des vaccins et de l'apparition de nouveaux variants, le risque d'une nouvelle vague d'infection reste élevé en Afrique, a averti dans un communiqué le bureau régional de l'OMS basé à Brazzaville. Désormais, le continent africain ne représente plus que 1% des doses de vaccins administrées dans le monde, contre 2% il y a quelques semaines, selon le même communiqué. La position américaine pour une levée de brevets sur les vaccins anti-Covid constitue une remarquable expression de leadership, a déclaré hier le directeur d'Africa CDC, le centre de contrôle et de prévention des maladies du continent qui dépend de l'Union africaine. Nous reviendrons dans quelques instants sur les réactions avec Mohamedou Houmfa. De nouveaux heurts ont éclaté jeudi soir dans un quartier de Jérusalem-Est au cœur d'une vive bataille devant les tribunaux sur le sort de familles palestiniennes menacées d'éviction au profit de colons israéliens. Le chef de la diplomatie américaine a exhorté jeudi la Russie à cesser son comportement agressif à l'égard de Kiev, des forces armées russes en nombre significatif restant déployées à la frontière ukrainienne en dépit de l'annonce d'un retrait. Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a assuré jeudi ne pas prévoir de détruire la fusée chinoise qui doit effectuer ce week-end une rentrée incontrôlée dans l'atmosphère, tout en critiquant à demi-mot Pékin pour en avoir perdu la maîtrise. Twitter a suspendu cette semaine plusieurs comptes dont le but apparent était de relier via son blog From the Desk of Donald Trump des messages de l'ancien président américain définitivement banni de sa plateforme de prédilection en janvier dernier après l'invasion du Capitole par une foule de ses partisans. Son compte sur Facebook est toujours suspendu. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. La suite de nos informations, Zéphirin Diabré, le ministre d'État burkinabé en charge de la réconciliation nationale, a rencontré jeudi à Abidjan Blaise Compaoré, une première depuis que l'ancien président du Faso a été renversé en 2014. Zéphirin Diabré se trouve en visite à Abidjan depuis mardi. Michel Joseph nous en dit plus.
La rencontre entre Zéphirin Diabré et Blaise Compaoré a été confirmée à Abidjan et à Ouagadougou par deux cadres du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ancien président burkinabé. L'ex-président du Burkina vit en Côte d'Ivoire, dont il a obtenu la nationalité, alors qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui par la justice de son pays en mars 2016. Il doit être jugé pour son rôle dans l'assassinat du président Thomas Sankara lors du coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1987. Le dossier a été renvoyé le 13 avril devant le tribunal militaire de Ouagadougou par la juridiction d'instruction après la confirmation des charges de complicité d'assassinat et d'attentat à la sûreté de l'État contre 14 personnes, dont M. Compaoré. Ayant obtenu la nationalité ivoirienne, M. Compaoré ne peut pas être extradé, mais selon des juristes, pourrait décider lui-même de comparaître volontairement et librement une fois que son retour aura été approuvé par les autorités du Burkina.
Interpellé depuis le 29 avril dernier, l'ancien ministre togolais de la communication, Djimon Oré, est depuis en garde à vue. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre du pouvoir de Lomé. Le point avec notre correspondante Kay Lawson.
Les faits remontent au 27 avril dernier, dans une émission pour le 61e anniversaire de l'indépendance du Togo. Djimon Oré a critiqué ouvertement la gouvernance du pays depuis plus de 50 ans par la même famille. Le tableau dépeint par l'ancien ministre de la Communication est sombre. Le bilan, en termes de sang versé, en termes de compatriotes assassinés par la France-Afrique à travers le régime barbare, le régime de l'oligarchie militaro-clanique d'Enyasingbé, dépasse de loin ceux qui sont tombés au Rwanda et on parle de génocide rwandais. C'est à cela que se résume le bilan de l'indépendance du Togo de 1963 à nos jours, a martelé l'ancien sociétaire de l'Union des forces du changement de Gilles Chris Olympio, aujourd'hui président du FPD, le Front des Patriotes pour la Démocratie. Des propos jugés diffamatoires par Lomé, ce qui lui vaut une accusation d'atteinte à l'honneur, de tentative de trouble aggravé à l'ordre public et d'outrage envers les représentants de l'autorité publique. Dans un communiqué, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral demande la libération immédiate de l'opposant. Le parti d'Aimé Goguet dit désapprouver son arrestation et sa détention jugée arbitraire. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le soutien américain à une levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19 a suscité de l'intérêt de certains pays européens prêts à en discuter alors que l'industrie pharmaceutique affiche ouvertement son opposition à Mahamadou Oumfa.
La patronne de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a salué cette annonce, tout comme le patron de l'OMS, Tedros Adhanom, qui selon lui peut augmenter l'approvisionnement du système COVAX pour aider les pays pauvres. La Russie, qui vient d'homologuer le Sputnik Light, son vaccin en une seule dose, soutiendrait une telle approche, a assuré son président Vladimir Poutine. Jusqu'ici réticent, son homologue français Emmanuel Macron s'est finalement dit favorable. Plus nuancée, la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, se dit prête à discuter de toute proposition qui s'attaquerait à la crise de façon efficace et pragmatique. Berlin se dit ouvertement pour la protection de la propriété intellectuelle. La Suisse, où l'industrie pharmaceutique pèse très lourd, a averti qu'une suspension des brevets ne ferait rien pour un accès équitable, abordable et rapide aux vaccins contre le Covid-19. L'annonce de Washington a d'ailleurs été qualifiée de décevante par la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique. Même son de cloche du côté de la Fédération américaine pour qui une telle décision pourrait davantage affaiblir les chaînes d'approvisionnement et favoriser la prolifération des vaccins contrefaits. et les géants pharmaceutiques comme Pfizer et BioNTech n'ont pas mâché leurs mots, parlant d'annonces politiquement motivées et de promesses vides qui vont davantage perturber les opérations de production de vaccins.
La Minute Éco, John Lyndon.
Le Soudan annonce avoir obtenu un prêt pour régler ses arriérés envers la Banque africaine de développement. L'accord porte sur 425 millions de dollars avec le Royaume-Uni, la Suède et l'Irlande. Ainsi, Khartoum pourra bénéficier de nouveaux financements, y compris une subvention immédiate de 207 millions de dollars. La dette du Soudan auprès de ses différents créanciers se chiffre à au moins 50 milliards de dollars. Le trésor public du Mali a levé 27 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA au terme de son émission de bons assimilables du trésor de maturité 364 jours. Les fonds devraient assurer la couverture des besoins de financement du budget du Mali. Pour le deuxième trimestre 2021, les intentions d'émission des titres publics s'élèvent à 180 milliards de francs CFA contre 235 milliards de francs CFA pour le premier trimestre 2021. Le Fonds monétaire international se tient prêt à venir en aide à la Tunisie. Des réunions ont eu lieu cette semaine à Washington avec les autorités tunisiennes en vue de l'obtention d'un programme d'aide. La Tunisie doit rembourser quelque 4,5 milliards d'euros sur l'année et a besoin d'une rallonge de 5,7 milliards d'euros pour boucler son budget 2021.
Merci John, et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde, initialement prévues pour débuter en juin, commenceront finalement en septembre 2021. C'est la décision de la commission d'urgence de la CAF en concertation avec la FIFA. Mardi, des fédérations ont indiqué que ce report a lieu car de nombreux stades ne sont pas homologués sur le continent. Les 6 journées des qualifications seraient étalées 2 par 2 en septembre, octobre et novembre, puis les barrages au mois de mars après la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, initialement prévue en 2021, mais décalée à 2022 en raison de la pandémie. Pour une analyse, nous avons joint à Yaoundé Thierry Ndo, journaliste à Sky One Radio.
À un mois de l'échéance, on est surpris de voir cette décision et on ne comprend pas comment la CAF a pu homologuer les stades à tout moment précis. C'est-à-dire qu'elle aurait pu le faire bien avant, les pays auraient pu prendre des dispositions, mais on a bien vu que c'est depuis le début de la semaine que les infrastructures ont été habilitées par la CAF, donc ça peut intriguer.
Alors justement, on sait qu'à partir du mois de septembre, les championnats européens ont commencé, la plupart des joueurs évoluent en Europe, il y a la CAN qu'il faut préparer parce qu'elle commence en janvier. Est-ce que tout cela ne fera pas trop pour les joueurs?
Vous savez que pendant que la CAF repose éliminatoire, les autres vont jouer. En Amérique du Sud, on avait reporté en mars, on va jouer en juin, l'Euro se dispute en juin-juillet, et en octobre, en septembre, ils vont amorcer l'éliminatoire. Ça sera compliqué pour les footballeurs du continent noir. D'autant plus qu'en janvier-février 2022, il va falloir enchaîner avec la CAN. Donc, le continent noir sera tellement exposé. Vous savez également qu'il y a la Coupe du Monde des clubs en juin et juillet 2022. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi tout ça retombe sur la CAF. Ça va dépendre sur les performances des footballeurs africains.
Est-ce que, par exemple, si on obligeait ces pays dont les stades ne sont pas homologués à aller jouer ailleurs, ça n'allait pas plus inciter les autorités à retoucher ces stades-là pour les mettre à jour?
Il y a des pays comme la Libye et la RCA qui sont venus de jouer depuis plusieurs années sur les terrains neutres. Je pense que la CAF aurait dû d'abord saisir les fédérations locales pour essayer de faire part de cette situation-là.
Thierry Ndo joint à Yaoundé. La finale de la Ligue Europa le 26 mai à Gdańsk en Pologne opposera Manchester United de l'Ivoirien Eric Bailly à Villarreal du Nigérian Samuel Chukwueze. Après 2 demi-finales retour hier à Rome et à Londres, 3-2 pour l'AS Roma contre les Red Devils pour l'honneur après la débâcle des Italiens à Old Trafford 6-2. 0-0 entre Arsenal et Villarreal qui avaient gagné 2-1 en Espagne la semaine dernière. Cette finale sera un moment inédit pour les joueurs du sous-marin jaune et leur entraîneur Unai Emery, grand spécialiste de la compétition, qui l'a gagné 3 fois. Les Red Devils, eux, ont remporté la Ligue Europa en 2017 avec José Mourinho aux commandes.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, l'armée écarte toute possibilité de coup d'État contre le président Muhammadu Buhari, qui fait face à de vives critiques face à l'insécurité croissante dans le pays. Certains critiques ont même demandé sa démission ou que l'armée prenne les commandes. Reportage à Abuja de Timothy Obiezu. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Cette déclaration de l'armée est une réponse à un commentaire du célèbre avocat nigérian Robert Clark qui a suggéré que le pays pourrait s'effondrer dans les mois à venir à moins que l'armée ne prenne le pouvoir. Le porte-parole militaire Onyema Nwachukwu a déclaré que l'armée va respecter la constitution du pays et a mis en garde contre les complots visant à renverser le gouvernement. Mais les critiques à l'égard de l'administration de Buhari par les organisations de la société civile, les groupes politiques et religieux se sont multipliées ces dernières semaines en raison de l'escalade de l'insécurité. Raphaël Adebayo est le fondateur du Free Nigerian Movement, un groupe de la société civile.
Insecurity in the country has affected every other sector of the country.
L'insécurité a affecté tous les autres secteurs du pays. Notre économie est en lambeaux. L'éducation est une catastrophe. Quoi qu'il arrive, il n'y a aucun espoir. Les pauvres continuent de s'appauvrir et la présidence est à court de solutions.
The presidency has run out of solutions.
Le président Muhammadu Buhari, ancien général, a été élu en 2015 et a promis de maîtriser Boko Haram qui a tué plus de 36 000 personnes et déplacé plus de 2 millions. Mais 6 ans plus tard, le groupe djihadiste s'est étendu dans le nord-ouest et a même débordé dans les pays voisins, tandis que le banditisme, les enlèvements et affrontements communautaires sont en nette augmentation. Ario Daré, le fondateur du Center for Civil Liberty and Development, un autre groupe qui exige la démission du président.
Nous pensons sincèrement que le président devrait démissionner. Il est actuellement incapable de diriger ce pays. Sa santé fragile lui a également fait défaut.
Le président Buhari a été réélu pour un deuxième mandat en 2019. Ario Daré dit que le président ne va probablement pas démissionner volontairement, mais prédit que les problèmes de sécurité seront un sujet majeur aux prochaines élections.
Il est important que quiconque succédera au général Buhari en 2023 soit un leader qui a fait preuve de compétence et sera capable de galvaniser le pays tout entier pour être sur la même longueur d'onde en termes de promotion de notre unité.
La semaine dernière, les législateurs ont exhorté le président à décréter l'état d'urgence. Mardi, Muhammadu Buhari a reçu ses principaux chefs de la sécurité pour déterminer une stratégie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, après 3 mois d'audit, un groupe d'experts étrangers conclut que le fichier électoral est cohérent et fiable. L'opposition qui avait réclamé cet audit après la présidentielle de 2019 rejette les conclusions de ce comité d'experts. Toutefois, ces derniers ont fait une trentaine de recommandations. Il souhaite, par exemple, que les opposants graciés comme l'ancien ministre Karim Ouad ou l'ex-maire de Dakar Khalifa Sall recouvrent leurs droits civiques. Il propose aussi une amélioration du système de parrainage, un autre sujet de controverse au Sénégal. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Dakar l'expert électoral Ndiaga Silla.
Bon, je pense que l'opposition a dû faire une mauvaise lecture des résultats de la mission d'audit. Parce qu'en fait, il me semble que l'opposition a voulu se focaliser non pas sur les conclusions et recommandations de la mission d'audit, mais plutôt sur des constats. Par exemple, il a été constaté pratiquement plus de 400 000 Sénégalais se sont inscrits sur la base en fait, donc de l'extrait de naissance. Comme aussi, par exemple, il y a des inscriptions justement, qui semblent être opérées hors période de révision. Mais ce qui s'est réellement passé sur ce qu'on appelle en fait donc les inscriptions hors période de délai, ce sont les électeurs sénégalais qui ont dû, entre-temps, perdre leur carte d'électeur ou justement, dont les cartes ont été altérées. Et donc, sur ces questions-là, depuis en fait, donc, l'automatisation en fait, donc, du fichier, on permet en fait, donc, à ces personnes-là de pouvoir se faire délivrer un duplicata.
Ce comité d'experts fait une trentaine de recommandations, comme la restauration des droits civiques de certains opposants qui ont été graciés, également l'amélioration du système de parrainage. Et sur justement cette question du parrainage, qui est fait également l'objet de débats, quelle est, vous, votre position?
On peut s'accorder sur le principe du parrainage qui participe à la rationalisation des candidatures. Surtout que déjà, on a vu aux législatives passées, on avait enregistré 47 listes. Nous avons toujours considéré qu'il était important et d'ailleurs, c'est heureux d'ailleurs que la mission puisse conclure à cela, envisager un système de parrainage justement optionnel. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est tenu justement de prendre en compte la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qui déjà donne injonction au Sénégal de pouvoir aller dans le sens de la suppression de ce système.
Et sur la question précise des opposants comme Karim Wade et Khalifa Sall.
Ce qu'il y a de nouveau dans la proposition en fait, donc, de la dernière mission, c'est qu'eux, ils recommandent qu'après maintenant avoir purgé sa peine, que maintenant celui qui a été déçu en fait, puisse retrouver en fait, donc, son droit de vote. En résumé, c'est que dernière mission demande en fait, qu'on ne puisse pas prononcer de manière définitive la déchéance électorale. Et sur ce point-là, moi, il y a quand même plusieurs années, j'avais émis en fait donc ma position, fondée d'ailleurs sur le respect en fait donc des droits de l'homme. Ce n'est pas le juge qui a prononcé la déchéance électorale, mais on a voulu justement s'appuyer sur les dispositions du code électoral, notamment les articles L31 et L32. Or, cette disposition, elle n'est pas conforme aux droits de l'homme, en ce sens que la déchéance électorale constitue une peine complémentaire.
C'était l'expert électoral Ndiaga Sylla, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Au Gabon, les femmes victimes de violences ont maintenant un numéro vert ou appelé en cas d'urgence. Le 1404 est gratuit et accessible par téléphone fixe ou mobile. La mise en place de ce numéro répond à un engagement des autorités à réduire les inégalités de genre et mieux protéger les femmes. John Lyndon a recueilli la réaction de Sidonie Owe, magistrate et présidente de l'ONG Salon de la Femme à Libreville.
Le numéro vert dédié aux femmes victimes de violences au Gabon est une avancée pour les organisations non gouvernementales qui militent pour les droits des femmes et les violences également basées sur le genre. Donc, ce numéro, s'il y a lieu de le rappeler, intervient dans le cadre d'un programme qui résulte du programme Gabon Égalité. Le Gabon Égalité a résumé qu'il y avait des violences effectivement vécues par les femmes et que dans le cadre de cet arrimage des droits humains qui doivent être égalitaires entre les hommes et les femmes, les violences faites aux femmes constituent également un frein par rapport à cette égalité. Au cadre de nos plaques socioculturelles, où on dit que les femmes ne doivent pas parler. Donc, nous estimons que c'est une avancée.
Alors, très brièvement, qu'est-ce qui est à l'origine de ces violences faites aux femmes au Gabon?
Ce n'est pas un cas, si vous voulez, atypique, hein, ce que les femmes vivent au Gabon. Il faut dire que ça relève de nos pratiques traditionnelles, notamment l'idée préconçue de la supériorité de l'homme à l'égard de la femme. Et ces violences qui ne sont pas des violences, uniques, hein, ce n'est pas une violence unique, ce sont des violences qui sont étalées, notamment sur le plan familial, avec cette domination de l'homme. Ensuite, il y a des violences économiques qui viennent s'ajouter à cela. Il y a également des violences sur le plan de l'éducation, parce que d'abord, si on a la grâce d'aller à l'école, mais les femmes victimes, par exemple, de grossesses non désirées, arrêtent de poursuivre leurs études. Et si vous voulez, les origines sont diverses. Il y a non seulement au niveau de la famille, mais au cœur de cette transversalité d'origine, il y a les plats culturels, les plats traditionnels qui ne nous lâchent pas.
Sidonie Owe, magistrate à Libreville et présidente de l'ONG Salon de la Femme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International ont appelé hier jeudi COVAX, le système de partage des vaccins anti-Covid, à accroître la transparence en rendant notamment public ses contrats avec les fabricants de vaccins. Rosine Munezero a joint ici à Washington Karine Kaneza Nantulia, directrice à Human Rights Watch, en charge du plaidoyer pour l'Afrique.
Il faut placer notre appel dans un contexte qui est assez particulier et qui commence l'année d'avant, en fait, en 2020. En octobre 2020, Human Rights Watch, donc notre organisation, a publié un rapport déjà qui présente une perspective troublante selon laquelle des gouvernements riches, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., qui disposaient de ressources nécessaires pour réserver à l'avance des centaines de millions de doses de quantité limitée de vaccins COVID-19 qui étaient disponibles, qui étaient déjà réservées à l'avance, signifiant que les pays en fait à faibles et moyens revenus seraient contraints d'attendre le reste des vaccins. En septembre 2020, Oxfam International, qui rapporte que les pays à revenus élevés avaient déjà réservé par ailleurs 51% des doses des vaccins qui étaient candidats à l'époque, et il y avait déjà Pfizer, Moderna, etc. Et donc c'est pour ça que nous avons continué à lancer cet appel, surtout dans le cadre du dispositif de COVAX, justement, qui est une initiative qui réunit les gouvernements et les fabricants. C'est un dispositif qui permet aux personnes et aux pays qui ont besoin des vaccins, d'y avoir accès. Mais le dispositif de COVAX, il faut comprendre que ce dispositif n'aurait pas assez de doses pour vacciner 60% de la population africaine, dont on a besoin pour justement arriver à cette immunité nécessaire justement pour combattre la pandémie. Et c'est pour ça qu'il y a eu d'autres initiatives qui ont été créées. Il y a deux initiatives, qui est le CIPAP et qui est la demande qui a été introduite par l'Afrique du Sud et le Mexique pour relâcher certaines dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Donc c'est un accord juridique international entre tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce. Elle fournit un contexte qui permet aux pays africains, aux pays du Sud, comme on appelle le Global South, de pouvoir distribuer de façon équitable et même de produire des vaccins chez eux.
Cet appel est lancé par justement Human Rights Watch, Amnesty International et une ONG américaine de protection des consommateurs, Public Citizen. Est-ce que vous pensez que les pays africains ne font pas le nécessaire?
Non. Et là, je me réfère au directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, le counterpart des Africa CDC, qui a lancé des appels inouïs depuis le début de la pandémie. Je parle également de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a fait des appels continus par rapport à l'Union africaine pour qu'elle puisse justement diriger cette initiative autour de cette demande, pour qu'elle puisse diriger et articuler une demande très claire de transparence et d'équité. Je peux même référer aux actions et aux déclarations faites par le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, qui a démontré un leadership assez clair depuis le début de 2020, quand la pandémie a été déclarée. Il faut aussi qu'on se rappelle qu'au niveau national, il y a eu des réponses qui ont été quand même très différentes les unes des autres. D'un côté, nous avons eu des pays comme le Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, qui ont pris des mesures parfois perçues ou décrites comme draconiennes, alors que quand même, nous avons des gouvernements comme le gouvernement tanzanien ou burundais, qui, à leur niveau, jusqu'à très récemment, ont fait au moins un an à nier l'impact de la pandémie. Donc tout cela a eu quand même un impact au niveau de la coordination, au niveau de la réponse et même au niveau de la demande.
Karine Kaneza Nantulia, directrice à Human Rights Watch, en charge du plaidoyer pour l'Afrique. C'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à